Panorama Economy.
Amis de la radio Okapi, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur votre radio. Les titres, avant de commencer, l'ouverture de la session budgétaire à l'ordre du jour, aussi bien au niveau national que provincial. Le Premier ministre Matata Ponyo a déposé en début de semaine son projet de budget 2015 à l'Assemblée nationale, tandis qu'au Katanga, le président de l'Assemblée provinciale demande au gouvernement de Kinshasa de respecter la rétrocession des recettes, il a dit à l'ouverture de la session de septembre. Les transporteurs routiers de la nationale numéro 1 de nouveau dans l'actualité, ils ont décrété depuis lundi un mouvement de grève pour manifester contre le réajustement en hausse du prix de péage routier sur le tronçon Kinshasa-Matadi. Les retraités en ordre avec l'INCS perçoivent depuis mercredi, et cela à travers toute la République, le paiement de leurs prestations sociales. Plus de 65 000 prestataires devront bénéficier de cette paie du troisième trimestre 2014 pour une enveloppe estimée à plus de 8 milliards de francs congolais. L'actualité de la semaine est commentée et analysée par Jean-Baptiste Lukando. Il est assistant à l'Institut de commerce de Kinshasa, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IEC, et c'est avec lui que nous allons commenter l'actu de la semaine. Monsieur Jean-Baptiste, bonjour et bienvenue dans le studio de Radio Okapi.
Bonjour monsieur le journaliste, et je vous remercie pour m'avoir fait un choix, le choix sur ma personne pour commenter avec vous l'actualité de la semaine.
Et devant le micro, dans ce studio, Daniel Tambinzoni et puis François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique sur votre radio.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier est de la semaine. Le Premier ministre Matata Ponyo a déposé mardi le projet de budget pour l'exercice 2015 à l'Assemblée nationale.
Ce projet de budget prévoit près de 9 milliards de dollars en recettes et dépenses de l'État congolais pour l'année prochaine. C'est un budget encore modeste, a dit Matata Ponyo, quand bien même il présente un accroissement par rapport à celui de 2014 finissant. Les propos de Matata Ponyo sont recueillis par ici par Mimi Nguma Mulongo.
Nous avons essayé au niveau du gouvernement de respecter les exigences constitutionnelles qui veulent que le gouvernement dépose le budget dans les temps. L'idéal aurait été que ce projet de budget soit déposé avant le 15 septembre, mais il y avait des contraintes qui n'ont pas permis de le faire avant le début de la session budgétaire. Mais pour la première fois depuis des dizaines d'années, qu'un projet de budget est déposé au cours du mois de septembre. Donc les efforts sont fournis progressivement et nous pensons que dans les exercices budgétaires prochains, le gouvernement devrait davantage se positionner dans les temps impartis. Mes chers amis de la presse, le budget de l'État congolais n'était que de 300 millions de dollars américains. Aujourd'hui, nous avons un budget qui avoisine le 9 milliards de dollars. Donc, c'est des progrès qui sont réalisés. Nous devons en tenir compte.
Voilà le Premier ministre Matata Ponyo. Mais de l'autre côté, nous avons cherché à voir la réaction des scientifiques à propos de ce projet de budget 2015, François.
Voilà Daniel, de l'avis de Michel Somoé, il est professeur de macroéconomie dans les universités de Kinshasa. Le Congo possède toutes les richesses reprises sur les tableaux chimiques. Ceci sous-entend que si l'économie de la RDC tournait normalement et après autant d'années d'indépendance, le budget congolais pourrait être beaucoup mieux que 9 milliards de dollars. On écoute Michel Somoé.
Le Congo est le seul pays dans le monde qui regorge tous les éléments du tableau chimique de Mendeleïev. C'est-à-dire que c'est le pays qui détient le plus énorme potentiel de développement économique du monde. Si je dois répondre à votre question en fonction de ce critère, je crois qu'il n'y a aucun pays qui aurait le même budget que la RD Congo, qui aurait le budget de la taille de la RD Congo. Mais je ne voudrais pas effrayer le monde en donnant ce chiffre-là. Mais si nous en tenons au mécanisme de gestion rationnel par rapport à notre situation de pays en développement, Je crois objectivement que si nous combinons ces contraintes avec les atouts que je venais d'énumérer, on ne devrait pas avoir dans ce pays un budget inférieur à 300 milliards de dollars.
À combien ?
Je dis à 300 milliards de dollars. Je répète le chiffre, 300 milliards de dollars serait le budget minimum si nous devons fonctionner rationnellement, parce que nous tiendrons compte du budget des autres pays qui sont dans des conditions plus ou moins similaires aux nôtres. Prenez le cas de l'Angola. Il n'est pas forcément plus avancé que nous du point de vue des équipements et du point de vue de la gestion humaine. Il n'a pas connu moins de difficultés que nous pour avoir, lui, un budget de 100 milliards et nous, un budget de 8 milliards et demi. Je pense que le budget de la RD Congo, pour être conséquent et renvoyé à la réalité d'un État présent à travers la République, ne peut pas se chiffrer en dessous de 300 milliards de dollars. À 300 milliards de dollars pour ce qui est de ce sous-continent qu'est la RD Congo.
Le Premier ministre a tout de même reconnu que c'est encore un budget modeste, mais il dit qu'on est parti d'un budget de 300 millions de dollars aujourd'hui à 9 milliards. C'est quand même un escalier de plus qui s'ajoute.
Je ne peux pas ne pas reconnaître ce progrès. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes partis effectivement d'un budget de 300 millions il y a à peine une décennie pour nous retrouver aujourd'hui aux environs de 9 milliards. Mais ce qu'il faut considérer aussi à côté de ce progrès, parce qu'il faut comparer les choses, c'est aussi considérer l'accélération de la destruction du pays, l'accélération des exigences de modernité d'une nation, de la vie, des conditions humaines. Nous devons réfléchir par rapport au progrès technologique qui s'accomplit autour de nous. Est-ce que les pas que nous faisons sont-ils suffisants pour nous rattraper par rapport aux besoins de notre développement, par rapport aux besoins d'amélioration des conditions de vie? Parce que la croissance économique est essentiellement un processus de rattrapage des retards. Le rythme que nous encaissons aujourd'hui de rattrapage est-il suffisant pour nous amener rapidement aux horizons que nous nous sommes fixés, notamment en termes d'émergence économique, en termes de puissance d'une économie? Est-ce que ce rythme que nous avons aujourd'hui de croissance de notre budget est-il suffisant pour conférer à notre nation les exigences de sa souveraineté et les exigences de son indépendance économique? Ce sont là les défis qui s'inscrivent en face de nous et par rapport auxquels nous devons mesurer nos efforts. Encore une fois, je dis que je reconnais qu'il y a un effort qui se fait pour l'amélioration des chiffres budgétaires d'une année à l'autre parce qu'on n'a pas reculé, même si on a l'impression de stagner depuis 2-3 ans. Mais on a quand même une certaine amélioration lorsque nous reculons de 10 ans, nous voyons d'où nous venons. Mais est-ce que cela suffit pour que nous puissions nous contenter des choses qui sont, d'après le Premier ministre lui-même, suffisamment médiocres?
Voilà. Si l'économie congolaise tournait normalement, son budget envoisinerait les 300 milliards de dollars américains. Et voilà, cette actualité de la semaine est commentée par Jean-Baptiste Locando. C'est mieux de vous connaître aussi que les auditeurs qui nous écoutent vous connaissent, monsieur Jean-Baptiste. J'avais dit que vous êtes assistant à l'IEC et en dehors de ça, quelle autre casquette vous portez?
Oui, en dehors d'être assistant, je suis président de la délégation syndicale aussi à l'IEC. Là, il y a plusieurs fois aussi expert dans le domaine des finances publiques, surtout sur la décentralisation, sur les finances locales et sociales.
Et voilà, ça tombe bien. Là, vous venez de suivre le Premier ministre qui présente son projet de budget. Comment vous aviez accueilli cela en tant que scientifique?
Non, c'est à féliciter le Premier ministre parce qu'il a déposé réellement dans le délai constitutionnel, ce qui est vraiment apprécié à son niveau. Mais également aussi, nous l'apprécions par les performances, parce qu'il a amélioré, nous sommes de 300 millions à 9 milliards, oui, ce qui est bon. Mais il y a un problème au niveau du budget. Parce que le budget, en fait, en soi, c'est une traduction en termes de chiffres du programme économique du gouvernement. Alors, je me demande, le Premier ministre a tenu compte de son programme parce que nous sommes dans un quinquennat. Donc, pendant 5 ans, c'est la révolution de la modernité. C'est-à-dire, pour cette année, le Premier ministre a supposé que la révolution de la modernité va coûter 9 milliards. C'est aussi un problème par sa capacité, par ce pays. Bon. On verra bien, parce qu'il a déposé auprès des élus de l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Nous attendons.
Peut-être que l'ECOFIN va y ajouter quelque chose, certainement.
Oui, c'est ce que nous attendons de l'ECOFIN, parce que c'est l'ECOFIN qui a le programme du Premier ministre. Il a investi sur base d'un programme du gouvernement. Et ce programme a été étalé pour 5 ans. Et nous supposons que c'est pour cette année.
Pour 2015. La révolution de la modernité.
Ça sera à 9 milliards, ce que je ne pense pas. C'est que les autorités budgétaires, que nous appelons aujourd'hui les parlementaires, ils vont pousser le Premier ministre à lui dire « Monsieur le Premier ministre, vous devez faire les efforts supplémentaires pour nous donner un budget, pour nous donner
Mais
encore
Mais où est-ce qu'il va ressources. Trouver cet argent, lui, le Premier ministre ?
Non, ce n'est pas qu'il va trouver cet argent où. Le Premier ministre, on l'appelle l'organe exécutif. Le Premier ministre doit chercher, il va trouver, parce que la RDC a beaucoup plus de potentialités que nous devons transformer cela en richesse. Donc, aujourd'hui, le Premier ministre doit avoir un budget prétentieux pour dire, et aujourd'hui, ce principe-là de voir d'avoir en équilibre recettes comme dépenses, c'est déjà battu en brèche par plusieurs chercheurs. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre, donc il faudrait que les dépenses soient supérieures aux recettes. Et c'est pour permettre au gouvernement de faire les efforts supplémentaires par le principe économique qui dit les besoins sont illimités, mais ce sont les moyens.
Les moyens sont limités, justement.
Non, les besoins sont illimités.
Oui, les moyens sont limités.
Les besoins sont illimités, justement.
Ouais.
Maintenant, comme les besoins sont illimités et les moyens
sont limités, il faudrait que les dépenses soient supérieures
par rapport aux ressources, aux recettes.
Ce serait votre conseil au Premier ministre d'augmenter les dépenses et de baisser les recettes.
Tout le budget aujourd'hui dans tous les pays du monde, c'est toujours en déséquilibre. Le principe de l'équilibre du budget a été déjà bâti en brèche par plusieurs chercheurs. Tous les pays du monde, ils ne prennent pas en équilibre les recettes comme dépenses, non. La vision aujourd'hui de dire le gouvernement prétentieux pour dire « moi, je dois dépenser pour la révolution de la modernité, par exemple 300 milliards pour prendre l'exemple du professeur, en minimum ». Alors maintenant, l'autorité budgétaire va dire « Monsieur le Premier ministre, vous êtes en déséquilibre, 300 milliards comme dépenses, oui, le minimum en recettes. Alors comment vous allez faire maintenant pour atteindre, pour réaliser ces recettes-là, pour répondre en fait aux besoins des Congolais qui attendent vous ?» par votre programme, et qui se sont adhérés au programme du chef de l'État, parce que nous l'avions élu sur base de son programme. La révolution de la modernité. Alors c'est en ce sens-là que nous disons au Premier ministre, qui est devant le parlementaire, il le sait comme économiste, il le sait qu'aujourd'hui, les besoins des Congolais sont tellement énormes, mais il voit aussi sa capacité de mobilisation des ressources, mais c'est à l'autorité budgétaire aussi de pousser le Premier ministre pour lui dire « Monsieur le Premier ministre, voilà, nous voulons que nous soyons à ce niveau-là, parce qu'ils ont fait leurs promesses et leurs bases aussi ont adhéré à leur programme.
Voilà. » Justement, et c'est le moment de prendre le deuxième dossier de la semaine. La suite de cette émission nous conduit au Katanga, où le président de l'Assemblée de cette province fustige le nom respect par le gouvernement de Kinshasa qui ne respecte pas la rétrocession.
Gabriel Kyungu Okumanza l'a dit à l'ouverture de la session de septembre au Katanga, comme dans plusieurs autres provinces du pays. Au lieu de 330 millions de dollars que doit recevoir le Katanga, a dit Gabriel Kyungu, le gouvernement de Kinshasa ne rétrocède que très peu et le manque à gagner prive la province de moyens pour réaliser certains projets sociaux. Les propos d'Antoine Gabriel Kyungu à Kumanza ont été recueillis par Jean Gandou.
Au premier semestre de l'année en cours, sur un total de plus de 830 millions de dollars de recettes à caractère national et de redevances minières que le Katanga a produit, nous n'avons reçu du gouvernement central qu'à peine 18 millions au lieu de 333 millions qui représentent 40%. Avec ce manque à gagner de l'ordre de 315 millions de dollars américains, la province pouvait construire plus ou moins 5 254 écoles d'une valeur de 60 000 chacune. Par ailleurs, j'annonce que dans les tout prochains jours, une délégation mixte Assemblée et gouvernement provincial du Katanga se rendra à Kinshasa pour déposer le tableau général du manque à gagner de notre province depuis 2007 jusqu'au 31 décembre 2017. 2013.
Et de l'autre côté, à l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental, le patron de cet organe a demandé, lors de la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire, à l'exécutif de déposer à temps son projet de budget pour l'exercice 2015. Le président de l'organe délibérant a aussi fustigé l'attitude de la direction provinciale des impôts qui, d'après lui, décourage les bonnes initiatives privées pour le développement avec sa politique fiscale. Omer Mijimbu a ainsi appelé le gouvernement provincial à s'occuper de cette situation. Et en réaction, le directeur provincial par intérim de la DGI a indiqué que son institution agit selon les prescrits de la loi. Nous allons retrouver notre invité, M. Jean-Baptiste. Vous avez suivi sur plus de 800 millions que le Katanga a produit. Le gouvernement de Kinshasa n'a rétrocédé qu'à peine 18 millions et le gouvernement provincial ne le rate pas.
J'ai bien suivi le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, mais la rétrocession est prévue par la Constitution. C'est dans la décentralisation.
Ça tombe bien parce que vous êtes un expert dans les finances publiques, surtout en matière de décentralisation.
Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la décentralisation financière. Le président de l'Assemblée provinciale, en dehors de ce que le gouvernement national lui rétrocède au gouvernement provincial, ils sont appelés à mobiliser les ressources nécessaires pour faire face à leurs besoins. La création, la décentralisation avait comme objectif, c'est de répondre aux besoins de la communauté de base. Alors, pour répondre à ces besoins aux besoins de la communauté de base, il faudrait qu'au niveau des autorités locales, qu'ils puissent trouver les moyens nécessaires. Et la rétrocession viendra maintenant compléter ou suppléer. La rétrocession, là, ça vient, c'est en fonction de la mobilisation des recettes générales. Nous venons de dire tout à l'heure là que voilà, le budget de l'État est de 9 milliards. Alors, vous allez demander au Premier ministre de faire quel miracle, parce que ce sont les impôts qu'il a mobilisés ensemble, impôts, taxes et toutes les autres ressources de l'État, sur l'étendue du territoire. C'est ce qu'on appelle la territorialité, y compris les Katanga, toutes les autres provinces. Maintenant, il doit faire un effort pour les appuyer, pour leur propre développement. Mais au niveau local, on a décidé, pour répondre à ses besoins, on a doté au gouvernement provincial les ressources nécessaires. Il y a d'autres impôts qu'on a dit, ça sera perçu par le gouvernement provincial. Ouais. Il y a aussi des taxes et on verra, sur base de leur capacité de mobilisation, ils peuvent aussi créer d'autres impôts, d'autres taxes ainsi de suite pour mobiliser. Alors, si le gouvernement, si le président de l'Assemblée provinciale, qui doit pousser son gouvernement provincial d'exécuter, de mobiliser les ressources nécessaires, ne doit pas totalement se plier au gouvernement qui cherche au gouvernement central, qui cherche de moyens suffisants. C'est pourquoi nous disons le président de l'Assemblée provinciale, qui n'a pas totalement tort, mais il doit plutôt appuyer l'accélérateur au niveau local pour mobiliser de plus en plus les recettes au niveau local.
Mais je pense qu'il n'est pas le premier à se plaindre parce que cette histoire de la décentralisation, cette histoire de rétrocession de 40% des recettes produites par les provinces ne date pas d'aujourd'hui. Vous êtes un expert en cette matière-là, mais je pense que c'est une loi qui souffre jusque-là.
Oui, mais si ça ne souffre pas parce qu'il y a rétrocession. Mais ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, et aussi au niveau, c'est comme ça que nous disons, nous devons aller vers l'avant, c'est-à-dire la modernisation aussi. Nous devons aussi aller vers l'avant. Aujourd'hui, dans la nouvelle théorie qu'au niveau des assemblées provinciaux, au niveau des entités décentralisées, ils ne peuvent pas encore voter leur budget en ce moment-ci.
Pourquoi?
C'est pourquoi ils doivent attendre que le budget national soit voté.
Oui.
Et en fonction de leur dotation, maintenant, au niveau provincial, ils doivent maintenant faire voter leur propre budget.
C'est que
budget.
Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental va vite quand il demande au gouverneur déjà de déposer son budget pour 2015. Il va trop vite en besogne.
Oui, mais lorsque, je vais arriver par là, lorsqu'on leur demande de déposer, oui, bien sûr, mais il y aura un problème. Parce que le gouvernement provincial ne sait même pas combien on va le rétrocéder en termes de prévision des recettes. La rétrocession sera de combien? N'est-ce pas?
C'est que cette rétrocession doit être prise en compte dans le budget.
Dans le budget,
mais comme elle n'est pas encore déterminée, c'est difficile
de présenter un projet de budget.
C'est difficile, c'est comme ça que nous allons retourner quand le président de l'Assemblée provinciale du Katanga dit, voilà, on devrait nous rétrocéder autant qu'ils se signent 40%, parce qu'ils ont pris cela dans leur budget, oui. Sans toutefois attendre que le budget national soit voté, et ils trouvent combien ils vont rétrocéder en fonction de la mobilisation.
Parce qu'ils ont déjà établi les recettes qu'ils ont réalisées pour le premier semestre de 2014, ils pensent que ça pouvait déjà être une grande chose. Ok, on va prendre rapidement le troisième et dernier dossier de la semaine, ce troisième dossier consacré aux transporteurs des poids de véhicules poids lourds sur la route Kinshasa-Matadi. Ils sont allés en grève depuis ce lundi, un mouvement qu'ils disent entamé pour s'insurger contre la majoration du prix de péage routier.
Cette taxe est passée de 140 000 à 213, voire 248 000 francs congolais pour une catégorie de véhicules. Encore le président de la force routière congolaise FORC, ce montant ne correspond pas du tout à la prime donnée aux conducteurs qui transportent les marchandises sur cette ligne. André Tshikouji appelle le gouvernement à revoir à la baisse le péage sur la route Matadi relancé, les négociations sur la prime des transporteurs de poids lourds. On l'écoute.
Le salaire des travailleurs dans le secteur, les techniciens, sont, il y a ceux qui touchent encore 70 000, 100 000 francs congolais, 120 000 selon le cas, selon l'entreprise. Les routiers, les chauffeurs eux-mêmes, bien qu'on avait accordé, le gouvernement avait accordé les 300 000, c'est saucissonné aujourd'hui. Il y a trop de rubriques pour permettre des retenues et ces travailleurs n'ont rien. Le péage intervient. Maintenant, les patrons libèrent facilement les 248 000 et pour un voyage complet, ça fait pratiquement 500 000 francs parce qu'il y a d'autres frais qui rentrent là-dedans. Sans compter le pont pesé qui s'est fait à part. Nous nous plaignons parce que le chauffeur est payé par son patron. Le travailleur qui travaille a droit à un bon salaire. Les travailleurs ont droit à la vie. Nous observons ce mouvement de grève. Il a commencé aujourd'hui. Nous sommes très pacifiques. Là, nous disons, le travail ne va pas se faire. Nous attendons que nous puissions en discuter. Et le gouvernement ne doit pas se fatiguer. Il doit s'assumer pour nous appeler. Nous, on n'a pas de problème. S'ils veulent mettre 5 000 $ de péage par véhicule, c'est leur affaire. Mais qu'on donne à nos membres leurs droits. Parce que s'ils produisent 5 000 pour le péage, mais le péage doit aussi penser à eux. Pourquoi le péage doit tout prendre et affamer les travailleurs qui font rentrer l'argent du péage? Voyons pas l'opportunité aujourd'hui. Le dollar n'a pas haussé et il n'y a rien qui explique cette majoration.
Et nous allons retrouver depuis Matadi notre correspondant Guy Roger Nyapala qui nous décrit la situation qui prévaut actuellement.
Provincial de la FORC, Force ouvrière du Congo, le syndicat des chauffeurs et convoyeurs, cette grève est effectivement consécutive à l'appel de leur président au niveau national. Ils exigent le respect par leur employeur des accords conclus en juin 2014, à savoir le paiement d'un salaire de 300 000 francs congolais avec prime de 50 000 pour le chauffeur et 150 000 francs congolais pour le convoyeur. À l'heure actuelle, a fait savoir Joël Vélémé, peu d'entreprises de transport respectent ces accords. Il faut dire que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'augmentation des frais au niveau du péage sur la nationale numéro 1. Le montant initial à payer pour certaines catégories des véhicules a augmenté de 66 à 100%. Les sommes que les patrons des entreprises de transport ont accepté de payer sans condition. Une attitude qui a surpris les chauffeurs et convoyeurs et réveillé ainsi leur colère, estimant qu'il y avait de la mauvaise foi de la part de leurs patrons qui refusent de leur payer leur salaire, mais acceptent d'honorer des frais de péage en forte augmentation. Alors qu'il est au niveau du port international de Matadi, il n'y a pas de chargement ni de déchargement de marchandises à bord de camions poids lourds. Plusieurs camions remorques sont immobilisés à l'intérieur et à l'extérieur de cette installation portuaire. Et au niveau de certains garages. Matadi, Guy Roger Nyapala, Éco d'économie.
Guy Roger Nyapala, depuis Matadi, bonne fin de semaine et bonne écoute à tous ceux qui écoutent Radio Capi dans cette province du Bas-Congo. La suite de Panorama, tout de suite avant de donner la parole à notre invité pour la boucler.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres infos de la semaine, les producteurs agricoles de la filière pommes de terre au nord et au sud Kivu demandent au gouvernement de financer la recherche sur les semences améliorées. Il s'agit de leur faciliter la tâche car ils se sentent obligés de recourir aux pays voisins pour avoir de la bonne semence avec les difficultés que cela implique. Ces agriculteurs producteurs ont fait cette demande à l'issue d'une rencontre régionale qui a réuni durant 4 jours à Goma les acteurs de la filière pommes de terre venus de Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC.
Rendons-nous à Katanga où les agents de la douane de Kasumbalesa et les commissionnaires en douane bénéficieront d'un court délai d'une formation en utilisation du logiciel Sidonia World de gestion des opérations douanières. Affirmation du ministre délégué aux finances à l'issue des séances de travail avec les agents de douane de la Zambie et ceux de la RDC à Kasumbalesa. Pour Patrice Kitebi, les logiciels ne présentent pas des difficultés comme le prétendent les utilisateurs. Selon lui, le problème réside dans l'utilisation des Sidunawed par les concernés. Il promet de prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre fin au blocage du trafic à la douane de Kasumbalesa.
En Ituri, nous sommes en province orientale, à Chantigolful Kilo, AGK en sigle, conteste la saisie de ces 3 véhicules par le tribunal de grande instance de l'Ituri. Le tribunal voudrait obtenir le dédommagement de la succession d'un habitant de Mongualou à qui la firme minière doit plus de 30 000 dollars américains de loyer. Le conseil de l'entreprise minière qualifie la nouvelle saisie d'illégale et d'excessive. Des allégations que le tribunal de grande instance qualifie à son tour de non fondées.
Et puis, prenons cette autre information, plus de 65 000 retraités qui ont régulièrement cotisé à l'Institut national de sécurité sociale, l'INSS, reçoivent depuis mercredi leur retraitement social pour le troisième trimestre 2014. Le coup d'envoi de l'opération était donné à partir de Lubumbashi et se déroule à travers toute la République. Une bagatelle de plus de 8 milliards de francs congolais est affectée à cette opération selon Jean Louaka, sous-directeur technique à l'INSS.
Merci François et nous allons retrouver notre invité. Ce sera la fin du panorama économique sur Radio Kapi. Nous revenons à notre troisième dossier où nous évoquions ce problème de transport, de grève des transporteurs sur la nationale numéro 1, tronçon Matadi-Kinshasa. Ils sont allés en grève, les transporteurs, les chauffeurs, les conducteurs et convoyeurs, parce que le prix de péage a augmenté. Ils sont partis de là pour revenir sur la table des négociations avec les patrons. Monsieur Jean-Baptiste, comment vous avez analysé cette situation?
Non, cette situation est malheureusement n'est pas bien appréciée parce que les patrons qui ont vu au niveau de leurs charges, parce qu'il y a les charges fixes et les charges variables. Mmh. Alors, au niveau des charges variables qui ont le péage, a augmenté soit de 80%.
Ouais.
Mais en principe, au niveau des charges, qu'on appelle les charges de rémunération, le prime qui n'est qu'un droit, mais ils doivent respecter. Ça fait partie de la politique salariale de notre pays. Alors, si les patrons ne respectent pas, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les lois de notre pays, c'est la politique salariale. Alors, la politique dans ce domaine-là doit vraiment être respectée. Et s'ils ne respectent pas, que dit la loi? Nous avons un ministère qui a l'emploi, travail et prévoyance sociale. C'est leur droit et ils doivent nécessairement respecter leurs droits. Parce que le péage a augmenté. Et ceux qui travaillent, leur salaire reste stagnant. Et même les accords qui ont été signés ne sont pas respectés. C'est pas bon. Ils doivent respecter cela. C'est pourquoi nous devons avoir des politiques dans tous les secteurs. Nous avions commenté ici, dans les agriculteurs demandent qu'on puisse avoir les semences. C'est-à-dire que nous devons avoir des politiques sectorielles et qui doivent être respectées par tout le monde.
Et le non-respect par les patrons de ces chauffeurs, c'est le non-respect de la loi congolaise, comme vous le dites. Et ça interpelle aussi maintenant les autorités congolaises à passer à l'action.
Mais oui, bien sûr. Parce que si nous restons dans l'impunité, c'est que les autorités ne seront plus respectées. Comment? Il faut respecter la loi et la loi est faite pour tout le monde. Elle est pour tout le monde, elle n'est pas pour une catégorie de personnes. Elle est pour tout le monde et ça doit être appliqué à tous les niveaux, s'il vous plaît.
Jean-Baptiste Lokanda, merci.
C'est Lokanda.
Lokanda, merci Jean-Baptiste Lokanda. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir accepté de venir au studio de Panorama Économique. Espérons que ce n'est pas la première fois, ni la dernière.
Merci beaucoup, ce n'est pas ni la première ni la dernière et je suis toujours disponible si vous avez besoin de moi.
Et merci à vous, chers auditeurs. Ainsi s'achève Panorama Économique. Je vous convie à retrouver sur www.radiocapu.net toute la semaine. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir.